Ce que le mouvement des Gilets jaunes aussi a démontré, c'est que même ceux qui s'étaient jamais battus, qui étaient restés loin des organisations ouvrières, qui étaient même très émiettés avec un prolétariat très, hein, très fragmenté, dans des petites structures, etc., pouvaient trouver la voie vers l'organisation collective. Et instinctivement, ils n'avaient même pas eu besoin d'organisation pour ça. Ils n'avaient même pas eu besoin de parti. Ils s'en méfiaient, et à juste titre. Et ils avaient envie. Et ça, c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est leur volonté de dire, on dirige ce mouvement. Ce mouvement, c'est le nôtre, c'est nous.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Tu es porte-parole de Lutte Ouvrière depuis 2008. C'est ta quatrième candidature à l'élection présidentielle. Tu es agrégée d'économie et t'enseignes l'éco-gestion au lycée. Pour lancer l'entretien, contrairement à d'autres journalistes qui sont toujours amusés, qui vivent parfois plusieurs candidats trotskistes à l'élection présidentielle, nous, ce qui nous intéresse, c'est 35 ans après la chute de l'URSS et près d'un siècle après l'assassinat de Trotsky. Qu'est-ce qui vous amène, Lutte Ouvrière, à continuer à se revendiquer de Trotsky, du trotskisme, et qu'est-ce que ça amène aujourd'hui selon toi?
Alors effectivement, pour moi, être trotskiste, c'est être communiste, c'est inséparable. C'est absolument inséparable. Être communiste, c'est être révolutionnaire. Et être communiste, c'est être internationaliste. Et Trotsky, il incarne cette politique-là. Et c'est vrai que pour nous, c'est une référence incontournable, mais d'abord et avant tout parce que la révolution russe est pour nous quelque chose d'incroyable. C'est la preuve. La révolution russe, lorsque les ouvriers et les paysans en Russie ont renversé le tsar en février 1917, en pleine Première Guerre mondiale quand même, hein, en pleine Première Guerre mondiale, quand ils ont, en octobre 1917, instauré un pouvoir ouvrier et paysan à partir des soviets, c'est-à-dire des assemblées d'ouvriers, de paysans, dans les quartiers, dans les régiments, dans les usines, ils ont fait la preuve. Ils ont fait la preuve que les travailleurs pouvaient prendre le pouvoir. Pouvaient prendre le pouvoir et instaurer un autre ordre social, diriger la société en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins essentiels. Leur besoin, c'était d'arrêter cette boucherie, qui était cette Première Guerre mondiale, qui était une guerre impérialiste. C'était le pain, c'était la terre. Ils ont réussi à imposer leur pouvoir au travers d'une révolution. Et je crois que ça a été... C'est la preuve que les travailleurs dont on dit en permanence que de toute façon il faut qu'ils se résignent à la société capitaliste, au pouvoir de la bourgeoisie, à ces guerres impérialistes, à ces crises, hein, c'est la preuve que voilà, les travailleurs, ils sont capables, ils sont une force politique capable justement de gérer la société. Donc pour nous, le trotskisme, c'est d'abord ça aussi, c'est la révolution. La révolution ouvrière, un gouvernement ouvrier et paysan. Et puis, le trotskisme, c'est un combat. C'est un combat qu'ont mené d'ailleurs avec Trotsky des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'ouvriers et de paysans en Russie. Parce que, après la révolution russe, il y a eu une guerre civile qui a été épuisante, hein, qui a duré 3 ans, qui a été vraiment, qui a épuisé les forces révolutionnaires. Et c'est à partir de cet épuisement-là que finalement une bureaucratie s'est installée et a fini par confisquer le pouvoir aux ouvriers et aux paysans. Et ça, Trotsky a combattu cette évolution-là, avec, encore une fois, avec des dizaines de milliers d'ouvriers, des centaines de milliers, hein, qui refusaient de voir leur pouvoir être confisqué, qui refusaient ces inégalités, cette emprise nouvelle qui s'installait. Donc il y a eu un combat pendant des années et des années, et puis un combat aussi pour étendre la révolution. Parce que Trotsky, mais en cela, il était dans la ligne droite de Lénine, hein, pour eux, la révolution russe ne pouvait véritablement survivre, avoir un avenir et déployer, avoir une chance de déployer une société communiste harmonieuse que si elle se répandait à l'échelle de l'Europe au moins et à l'échelle du monde ensuite. Donc c'était une politique pour étendre la révolution. Ça a été la politique de Lénine, hein, de s'adresser, alors que, je le redis, c'était la Première Guerre mondiale, s'adresser aux soldats allemands, hein, en leur disant, ben voilà, maintenant il y a un pouvoir ouvrier, un pouvoir paysan qui est absolument contre cette guerre, qui tend la main aux frères travailleurs de l'autre du pays en guerre, hein, et ensemble on doit renverser ce système capitaliste. Donc ça, c'était vraiment, si vous voulez, la perspective qu'avaient les révolutionnaires à cette époque, et que Trotsky a maintenu vivante en défendant une politique pour les révolutionnaires en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a eu une ébullition, une révolution aussi, en novembre 18, et puis une ébullition qui a continué jusqu'en 1923. Hein, et il y a eu aussi une révolution en Chine, en 25, 26, 27, vis-à-vis de laquelle Trotsky a défendu une politique. Et donc, une politique contre cette trahison qu'a été la théorie du socialisme dans un seul pays, avancée par Staline en 1925. Voilà. Alors ça, c'est en effet cette théorie, hein, construire le socialisme dans un seul pays, c'était vraiment la preuve que là, la bureaucratie stalinienne tournait le dos aux véritables perspectives communistes, parce que construire le socialisme dans un seul pays, ce n'est pas possible, ni à l'échelle d'un pays aussi vaste que la Russie, parce que voilà, pays sous-développé qui n'avait absolument pas la possibilité de rivaliser en termes économiques et puis d'apporter le mieux-être, d'apporter une certaine abondance à la population russe. Donc voilà, pour nous, effectivement, le trotskisme, ce combat, hein, qui a duré, ça n'a pas été réglé en, ça a duré des années, et en réalité, c'est avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale que Staline réalise qu'il faut absolument qu'il élimine toute opposition trotskiste en URSS, et là qu'il y a donc des dizaines de milliers de fusillés, hein, d'opposants trotskistes qui sont fusillés en Russie, les procès de Moscou en 36, hein, qui débouchent sur l'élimination physique de ce courant en URSS. Voilà. Sauf que il avait fini par exiler Trotsky, et Trotsky a continué de porter ce drapeau en exil. Et il a continué donc d'organiser, d'essayer de reconstruire des partis communistes dignes de ce nom. Voilà, donc oui, Trotsky, pour nous, c'est tout cet héritage-là, et c'est la transmission d'un drapeau sans tache, justement. C'est celui qui a d'abord expliqué ce qui s'était passé, pourquoi finalement cette révolution ouvrière et ce pouvoir ouvrier naissant n'avait pas tenu. Pourquoi il avait dégénéré. Il a expliqué pourquoi le capitalisme, après la crise de 1929, avait développé ce fascisme, hein, ce fascisme partout en Europe. Il a défendu une politique pour les travailleurs, contre le fascisme. Oui, pour nous, le trotskisme, ça reste, si vous voulez, le communisme vivant, l'idéal communiste vivant, et dont il faut, je pense, s'approprier l'analyse au plus vite aujourd'hui.
C'est intéressant le fait que tu reviennes à l'histoire et que tu finisses en disant c'est l'idéal. Mais le sens de ma question, c'était aussi qu'est-ce que le trotskisme, ou plus généralement le marxisme, aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, de la Ve République, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau organisationnel?
Au niveau organisationnel, c'est d'abord une ligne. C'est d'abord une ligne. Le marxisme, c'est d'abord l'idée fondamentale que toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte de classe. Que finalement, le moteur de l'histoire, c'est la confrontation de classes sociales. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx raconte comment la bourgeoisie a été une classe qui est née au sein même de la société féodale, mais qu'elle a porté un système économique bien différent de l'organisation économique féodale, et qu'elle a combattu au sein même de cette société, et qu'elle a fini par prendre le pouvoir et par renvoyer la noblesse, les seigneurs et les rois dans les poubelles de l'histoire. Bon, quelques rois y ont laissé leur tête, d'ailleurs. Et il expliquait que dans cette nouvelle organisation économique qui était le capitalisme, avec la bourgeoisie à la tête, il y avait une autre classe sociale qui naissait, qui se développait, qui était d'ailleurs indispensable à la bourgeoisie, hein, qui est en quelque sorte le double de l'autre facette, hein, de cette société, le double de la bourgeoisie, que la bourgeoisie ne pouvait pas se développer et faire fructifier son système sans développer aussi une classe avec des intérêts opposés, la classe ouvrière. Et pour Marx, c'était évident que cette classe ouvrière, montante, se développant, était la future classe sociale qui allait combattre pour le pouvoir et qui portait d'ailleurs en elle aussi une autre organisation économique. Une organisation collective, justement, une organisation qui ferait l'égalité réelle, c'est-à-dire qui combattrait l'existence des classes sociales, qui combattrait l'exploitation de l'homme par l'homme, et qui ferait naître une toute nouvelle société qui dépasserait le capitalisme. C'est ça le marxisme. C'est ça le marxisme. Et c'est expliquer comment. Au sein même, ce sont des forces réelles, des forces sociales qui travaillent encore aujourd'hui au sein même du capitalisme. Pour moi, le marxisme, c'est l'idée nous ne sommes pas condamnés éternellement au capitalisme. Voilà, les pharaons, les rois se croyaient éternels. Aujourd'hui, je pense que oui, des Musk se croient éternels. Des Musk, des Bezos, la classe capitaliste se croit éternelle. Et d'ailleurs, on a beaucoup de défenseurs du capitalisme qui nous expliquent que finalement, le capitalisme, c'est la dernière station de l'humanité. Ça serait le système qui correspondrait le mieux à la nature humaine, à notre individualisme profond, etc., etc. Bon, bah, le marxisme prend le contre-pied complet de tout cela. Complet. Et c'est... Le marxisme, et dans le manifeste communiste, il y a cet optimisme révolutionnaire fondamental qui, je pense, en tout cas, qui moi m'inspire, me donne cette énergie de combattre malgré le recul politique, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré cette espèce de pouvoir écrasant de la classe capitaliste aujourd'hui, malgré ces guerres impérialistes, mais malgré ce retour vers la barbarie. Il y a cet optimisme révolutionnaire que la bourgeoisie le veuille ou pas, la classe ouvrière, elle se développe partout sur la planète, y compris les tendances communistes se développent au sein même de la société capitaliste. Ça peut paraître surprenant de dire quelque chose comme ça, mais c'est une réalité. Les tendances communistes, elles se développent. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement les multinationales qui font travailler des centaines de milliers de femmes et d'hommes ensemble, collectivement, à l'échelle même de la planète. Ils ont socialisé le travail. Plus rien ne peut être fait seul, tout seul. Alors, on est une grande chaîne. Une grande chaîne dépendant les uns des autres, et le travail des uns dépend du travail des autres, et ça à l'échelle internationale. À l'échelle internationale. Moi, c'est ce qui me frappe, c'est les tendances collectives, finalement, du capitalisme. Et il y a plein de choses qui me font sourire au quotidien. C'est quand je vois comment on peut, par exemple, partager des œuvres d'art, une musique, des idées, des connaissances, mais de façon quasiment instantanée, d'un bout à l'autre de la planète, et de façon illimitée. Alors ça leur pose plein de problèmes. C'est que quand on est capable de faire ça, Comment on fait avec les droits de propriété? Comment on fait payer? Et c'est un vrai casse-tête pour eux. C'est que quelque part, voilà, les forces productives et la technologie, les capacités de partage, de faire ensemble, etc., elles ont presque déjà dépassé leur système juridique, hein, pour non non ça c'est à moi, ça c'est privé, ça c'est ma propriété, vous voyez, et tout le temps on a ces contradictions là. Mais même le fait que la classe capitaliste elle soit obligée de mettre en commun ses capitaux dans des fonds d'investissement. Mais c'est la preuve que voilà, aujourd'hui, avec le développement des forces productives, il y a des tendances à la socialisation, au collectif en fait, au collectif. Et ça, Marx le souligne très bien. Et il explique que c'est ça l'avenir. Quelque part, la société capitaliste, elle est grosse de la société communiste, mais il faut un accoucheur. Et l'accoucheur, c'est évidemment les travailleurs. C'est cette classe ouvrière qui est non seulement exploitée, mais qui fait tout, qui réalise qui crée toutes les richesses, qui est indispensable. Et c'est elle, en suivant son intérêt, en étant guidée, hein, par son intérêt et par ses luttes, qui sera capable d'accoucher de la société communiste. Donc voilà, pour moi, le marxisme, c'est la perspective. C'est bien sûr, pour moi, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route. Donc, et comment on peut se sortir de ce qu'on vit aujourd'hui, qui est complètement schizophrénique. Enfin, moi, je pense que la société capitaliste n'a jamais eu autant de possibilités, autant de moyens de lutter contre la misère, de réaliser même une forme d'abondance. On n'a jamais eu autant de moyens pour circuler, pour produire. Enfin bon, tout ça, c'est on n'a jamais été aussi riche, et aussi capable. Capable d'aller de l'avant, de progresser, et en même temps, on reste des nains en matière de rapports sociaux. Impossible de supprimer la misère, mais c'est une anomalie, c'est une absurdité. Impossible d'aider les pays à se développer, à sortir du dénuement. C'est une anomalie complète. Hein, et même ce qu'on voit, c'est même au contraire un capitalisme qui est encore plus prédateur et qui va encore plus loin dans la barbarie avec toutes ces guerres. Donc voilà, là on est effectivement le capitalisme est en train de s'effondrer sur lui-même. Bon, nous on reprend souvent, hein, la phrase de Rosa Luxembourg, hein, c'est le socialisme ou la barbarie. Voilà, mais moi je le ressens comme ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. Alors nous, bah oui, on est des militants, on est des marxistes, et on dit bah c'est le socialisme, c'est ça la perspective. Et il y a une force pour accoucher de ce socialisme. Bah c'est la classe ouvrière. Il faut lui donner la conscience de ses intérêts et la conscience aussi bah de ce rôle, de ce qu'elle porte en elle comme autre société, qui pourra, moi je n'en doute pas, faire encore évoluer l'humanité tout entière.
Je pense qu'on est assez d'accord sur les objectifs, mais du coup, dans la suite de l'entretien, moi j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de moyens. C'est-à-dire, par exemple, Lutte Ouvrière, c'est un parti qui est connu par rapport aux autres partis politiques pour continuer à militer, à faire un effort de militer devant les usines. Sur le terrain, vous organisez avec les syndicats, parce que ça c'est un discours qui est quand même assez abstrait d'une certaine manière. Quand tu dis il y a le développement des forces productives, bon, on peut dire que c'est pas abstrait, mais sur le terrain, tu te retrouves avec des individus en face de toi quand tu vas tracter le matin devant les usines. Ces individus, ils sont aussi intoxiqués aux journaux qu'ils regardent. À l'école qu'ils ont eu, à tout un tas de choses, ils sont intoxiqués idéologiquement. Et du coup, j'imagine que juste vous arrivez pas avec les arguments marxistes. Tout d'un coup, c'est une illumination pour les ouvriers qui réalisent qu'en fait, ils forment une grande classe, qu'il faut se débarrasser de la classe capitaliste et passer au communisme. Du coup, ma question, c'est un peu au niveau pratique sur le terrain. Quand vous faites cet effort d'aller militer devant les usines, comment est-ce que vous organisez sur le terrain? Est-ce que vous avez des liens avec les syndicats? Quel type de discours vous tenez aux ouvriers? Est-ce qu'il prend? Est-ce qu'il prend pas? Quelles sont un peu les remontées idéologiques que vous pouvez faire? Ça part dans pas mal de directions, mais.
D'accord, il faudra peut-être me couper alors si je réponds pas à tout. D'abord, on ne milite pas devant les usines. On est dans les usines. Et notre objectif, c'est évidemment que les travailleurs dans les usines s'emparent de notre politique. Donc là où nous travaillons, dans les usines ou dans les hôpitaux ou dans d'autres entreprises, il n'y a pas que les usines non plus. Hein. La classe ouvrière, elle est très variée. Hein. Les métiers, bien sûr, ont beaucoup évolué depuis le 19e siècle, mais l'exploitation, elle existe, et elle existe y compris... Bon, moi, j'ai des gens autour de moi qui travaillent, par exemple, dans les jeux vidéo, dans la production de jeux vidéo, mais c'est l'exploitation, hein. C'est l'exploitation aussi. Voilà, vous avez tous ceux qui se nomment, qui se disent en freelance. Hein. En réalité, ils sont exploités, eux aussi, et bon, un certain nombre le comprennent assez vite. Donc, non, nous, là où nous travaillons, nous militons. Et oui, on pense que les usines ont un rôle, sans doute, d'entraînement, de mobilisation en cas de mouvement social, parce que ce sont les grandes concentrations. Donc, bien sûr qu'elles ont un rôle fondamental et que nous, on veut d'abord et avant tout être implantés là où on pourra provoquer une dynamique de mobilisation. Mais on y est dedans. Nous, ce qu'on vise, c'est pas être devant la porte, c'est d'être capable, partout où nous travaillons, de créer un réseau de travailleurs sur une base, justement, politique. Et c'est la raison pour laquelle on a créé, oui, ce qu'on appelle des bulletins d'entreprise. Donc ces bulletins d'entreprise, nous les diffusons de l'extérieur parce que de l'intérieur, c'est interdit. Hein, interdit de faire de la politique. D'ailleurs, on est dans une démocratie, hein, soi-disant. On est dans une démocratie et ça, on nous le rabâche jour et nuit. On devrait applaudir. Mais dès qu'on franchit la porte de l'entreprise, on n'a plus le droit de rien dire. Hein, plus le droit de discuter politique. Ça, c'est... Et attention, ça rigole pas. Hein, ça, c'est motif de licenciement. Donc, on pense qu'il faut qu'on fasse de la politique. Voilà. Et donc, on organise effectivement les travailleurs autour de ces bulletins qui ont à la fois un recto dans lequel on prend position sur ce qui peut se passer dans la société et au verso où il y a ce que les travailleurs vivent dans l'entreprise. Hein, la dénonciation de cette politique patronale, des attaques mesquines du quotidien, hein, et une façon donc de dire aux travailleurs de l'entreprise, bon ben voilà, nous on répond, hein, on est là, on n'est pas d'accord, on n'est peut-être pas toujours en mesure de débrayer, de faire grève, etc. Mais on n'en pense pas moins, hein, et au travers de ce tract qu'on appelle donc des bulletins. On est présent, et on forme, on essaye de former un réseau le plus grand possible de travailleuses et de travailleurs conscients, justement, de leurs intérêts et qui ont la volonté de rassembler et qui ont la volonté. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est notre activité fondamentale, je dirais. Et on est régulier, c'est-à-dire tous les 15 jours, on va s'adresser aux travailleurs au travers de ces bulletins. Donc, on en a quelques 300 dans le pays. Et c'est pour nous un objectif. On a aussi cette volonté dans les quartiers populaires d'organiser des comités de travailleuses et travailleurs communistes, révolutionnaires, internationalistes. Donc on a des comités dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis aussi d'être aux élections municipales présents dans 240 villes, si je ne me trompe, quelque chose comme ça. Donc, pour nous, c'est très important de militer au sein même des classes populaires, au sein même de la classe ouvrière. Et si vous voulez, on a... Bien sûr, quand on est communiste révolutionnaire... on n'est pas en permanence à parler du grand soir. On n'est pas en permanence en train de faire des grands discours. On tient notre place dans la lutte de classe qui est là, de toute façon, indépendamment de tout ce qu'on peut dire et de tout ce qu'on pense. Parce que les patrons, ils la mènent en permanence, cette lutte de classe. En permanence. Donc, c'est de la vie des travailleuses et des travailleurs dont on parle dans nos tracts. Et quand on discute, quand on fait des réunions politiques, quand on, c'est de notre vie dont on parle et de qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser piétiner. Qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer la riposte? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se battre? Voilà, tout simplement. Être communiste révolutionnaire, c'est pas parler de la révolution ou de communisme en permanence. C'est aussi une certaine façon d'aborder les problèmes quotidiens. Voilà, la moindre action ouvrière, la moindre grève, le moindre débrayage. Et cette façon, c'est de le faire avec la volonté d'impliquer le maximum de travailleuses et de travailleurs et de faire en sorte que ce soit leur lutte, leur mouvement, qu'ils découvrent au travers de cette réaction collective leur capacité de faire les choses, qu'ils découvrent y compris leur propre pouvoir, leur pouvoir de dire non, leur pouvoir d'organiser des choses indépendamment de ce que veut le patron contre sa volonté à lui. C'est une façon de les aider à faire leur apprentissage. Nous pensons, c'est ce qui nous guide, que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ça aussi, ça c'est Marx. Ce sera eux qui, au travers de leur lutte, accéderont à la conscience que c'est à eux de prendre le pouvoir, que c'est à eux de diriger. Et cette idée-là, on peut la porter, y compris dans les luttes quotidiennes, dans les entreprises et dans les quartiers populaires. Voilà, nous, on veut prendre absolument le contre-pied, si vous voulez, de l'attitude que peuvent avoir des avocats ou des assistantes sociales ou hein, je vais faire à votre place. Ou des politiciens. On veut prendre le contre-pied de ces politiciens qui expliquent « Votez pour moi, et puis, bon, vous économiserez vos semelles, vous n'aurez même plus besoin de manifester parce que, pouf, tout vous tombera tout cru dans le bec. » Non, pas tout cru, tout cuit, hein, tout cuit dans le bec, voilà. On va faire à votre place. Et puis moi, au pouvoir, je ferai ci, je ferai ça, et puis vous allez voir, je vais relancer la machine, et puis hein, je vais faire votre bonheur. Hein ? Nous, on veut prendre le contre-pied de ça. Ça, c'est pas vrai. Il n'y aura pas de sauveur suprême. Soit les travailleurs se battent pour, effectivement, leurs intérêts économiques, leurs intérêts politiques, et pour changer la société. Et là, oui, on la changera vraiment, la société. Sinon, on restera complètement dépendant de la classe capitaliste qui a le pouvoir, le véritable pouvoir sur nous. Le pouvoir de nous donner du boulot, le pouvoir de nous verser un salaire, le pouvoir de nous virer, le pouvoir de nous dire « bah toi, il n'y a plus besoin, tu peux crever, hein, de toute façon, voilà, hein, au boulot maintenant, t'es plus bon à rien parce que t'as le dos cassé, parce que voilà, on t'a bien essoré, et ben maintenant, hein, crève ». C'est ça le pouvoir aujourd'hui sur les travailleurs et sur la classe populaire. Il passe par cette domination économique, il passe par la possession du capital. C'est la classe capitaliste. Et nous, voilà, dans notre activité militante, dans notre attitude militante, c'est d'abord et avant tout ça qu'on veut faire passer et qu'on veut faire partager. Voilà, nous, on n'est pas. C'est ce qui aussi distingue lutte ouvrière de la France insoumise ou des autres partis de gauche. Hein, je ne crois pas que la préoccupation de Jean-Luc Mélenchon, ce soit d'armer la classe ouvrière de, politiquement et de l'armer de cette conscience qu'elle peut faire les choses. Qu'elle peut faire les choses. Et qu'en réalité, ce sera elle qui changera la société en prenant les rênes de la société, les rênes des entreprises. Pas nous, c'est notre raison d'être à lutte ouvrière. Et cette idée-là, je peux vous dire qu'on peut la faire passer. On peut la faire passer en militant au quotidien, y compris sur des actions collectives du quotidien, des réactions parfois. Hein, et Voilà, donc pour nous, c'est ça. C'est militer dans la classe ouvrière, c'est être avec la classe ouvrière et l'aider à prendre conscience de la force qu'elle est et l'aider à prendre conscience qu'elle doit diriger. Et ça, c'est un combat. C'est un combat essentiel parce que dans toute la société, ce qu'on nous apprend, c'est l'inverse. C'est que bah, quand on est ouvrier, quand on est auxiliaire de vie, quand on est femme de ménage, bah, on n'a pas fait d'études, hein, voilà, donc on sait pas faire, on sait pas diriger, on sait pas décider, on n'a pas, hein, on n'a pas fait l'ENA, on n'a pas fait Polytechnique, on n'a pas fait les grands, voilà, donc on ne sait pas. Et nous, on est absolument opposés à ça. On pense que, au contraire, c'est les travailleurs qui savent le mieux comment répondre aux problèmes de l'écrasante majorité parce qu'ils les vivent, parce qu'ils sont au cœur de la production. Ils savent comment on pourrait régler un tas de problèmes. Ils savent le faire. Ils savent le faire. Donc, leur donner conscience qu'ils dirigeraient mieux la société, hein, oui, ça c'est quelque chose d'important. Bon, j'ai... y compris... Quand il y a eu en 1917, en octobre 1917, la révolution donc dirigée, portée par le parti bolchévique, dont on se réclame, hein, nous, lutte ouvrière, une des préoccupations de Lénine, c'était de dire que maintenant, il fallait apprendre aux travailleurs à gérer l'État. Et il fallait absolument apprendre à aller chercher la cuisinière, hein, aller chercher la cuisinière, lui dire « on a besoin de toi ». On a besoin de toi pour, eh bien, trouver des solutions, pour reloger tout le monde. On a besoin de toi pour, gérer les approvisionnements, comment on fait la répartition, etc. On a besoin de toi. Voilà. Et il faut apprendre. On va faire des erreurs, ok. Mais nous, on aura cette volonté-là de répondre aux besoins, des, milliards d'êtres humains que constitue, voilà, la classe ouvrière. En nous, on aura cette volonté-là, que les capitalistes n'ont absolument pas. Donc eux, ils peuvent pas y arriver. C'est juste impossible.
J'ai envie de rebondir sur plein de choses. Du coup, il faut que je choisisse un thème. Tu parlais de Mélenchon en citant des paroles de l'International en disant il n'y a pas de sauveur suprême. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais on se souvient aussi que en 80, lutte ouvrière au deuxième tour de la présidentielle avait appelé à voter pour Mitterrand. On peut penser depuis à des gouvernements. Donc voilà, Mitterrand, on sait ce que ça a donné, les trahisons qu'on suivit. Mais on peut aussi se souvenir de manière plus récente de gouvernements en Amérique latine qui ont mené des politiques progressistes, qui ont réussi à faire baisser la pauvreté, renforcer les services publics. Aujourd'hui, vous êtes retrouvés à défendre sur les plateaux la France insoumise par rapport à des attaques multiples qu'elle pouvait recevoir du champ politico-médiatique, soit par rapport au néo-nazi Quentin D, qui a été tué à Lyon, par rapport aux attaques contre Rima Hassan et Balibagha Yoko. Est-ce que vous dites pas que ça pourrait quand même être plus intéressant pour des forces comme lutte ouvrière, des forces vives de la Révolution, de lutter sous Mélenchon, en fait? C'est-à-dire que c'est évident que si Mélenchon, la France insoumise, arrivait au pouvoir, la partie ne serait pas gagnée du tout, mais que ce serait peut-être plus intéressant pour le camp des travailleurs et le camp des révolutionnaires de lutter sous Mélenchon que sous les autres.
Donc, conclusion de ça.
Faisons élire Mélenchon.
Donc, conclusion de ça. Surtout, hein, pas de candidature à la présidentielle, et surtout pas un mot non plus pour critiquer la politique de Mélenchon.
Pas du tout.
Donc, en fait, nous pensons que il faut dire la vérité aux travailleurs. Que ça, c'est l'essentiel. On va pas faire des calculs à trois bandes, hein, des voilà, et parce que ça, c'est bah, ça a été fait et répété. Là, par exemple, tu cites hein, des gouvernements progressistes, mais même Mitterrand, en disant toi-même que c'était un échec, c'était un échec. Donc, alors déjà, on a appelé à voter Mitterrand au deuxième tour, après avoir présenté Arlette Laguiller au premier tour. Et après, qu'Arlette Laguiller a dit tout le mal qu'elle pensait de Mitterrand, cet homme en réalité venu de la droite, qui avait fait une OPA sur le Parti socialiste et que le Parti communiste avait repeint en rouge. Voilà. Donc alors, pendant le premier tour, Arlette avait dit tout le mal hein, qu'elle pouvait penser de cette perspective et comment, en réalité, les travailleurs ne devaient pas être leurrés, ne devaient pas se tromper et que toutes ces illusions, on allait les payer cher, en fait. Ça a été cette campagne d'Arlette Laguiller. Et au deuxième tour, on a dit, bah écoutez, massivement, les travailleurs, vous êtes pour voter Mitterrand ou... Ok, bah, on va faire une connerie, mais on va la faire avec vous. Voilà. On va la faire avec vous parce qu'on est solidaires. On est solidaires de vous. On va faire cette expérience-là. Voilà ce qui va se passer. Mais dans... nous, on est dans votre camp. Vous voulez faire cette grosse connerie? Ok. On y va. Vous pourrez compter sur nous, dans tous les cas. Vous pourrez compter sur nous parce que nous, voilà, on ne change pas d'avis. On sait qu'il va falloir des luttes. On sait que Mitterrand, il fera la politique du patronat. Voilà, ce qui n'a pas manqué. Hein. Ça n'a pas manqué. Voilà. Donc, eh bien, moi, je vais continuer sur cette ligne. Hein? C'est-à-dire que, voilà, ceux qui expliquent aujourd'hui, en pleine crise du capitalisme, en pleine évolution guerrière du capitalisme, qu'on va pouvoir faire tourner le système d'une meilleure façon et que les travailleurs vont voir leur sort s'améliorer, trompent vraiment les classes populaires, ne disent pas la vérité. La vérité, c'est que il faut s'affronter avec cette classe capitaliste. Ici, au pied, voilà, au quotidien, hein, chaque coup, il faudrait pouvoir les rendre, et il faut s'affronter à la classe capitaliste plus globalement dans une remise en cause de leur dictature sur le monde. C'est-à-dire avoir une perspective, oui, de lutte qui soit révolutionnaire et qui soit internationaliste. C'est avec cette conscience-là que et avec ce dans cette direction-là qu'on changera véritablement quelque chose. Sinon, on aura quoi? On aura peut-être Mélenchon au pouvoir, hein, qui en réalité sera pieds et poings liés aux intérêts de la classe capitaliste, qui va continuer d'exercer cette pression quotidienne, idéologique, mais aussi cette pression au travers du pouvoir qu'elle a aujourd'hui de multiplier les licenciements, par exemple. De multiplier les licenciements, de faire à nouveau exploser le chômage. Cette pression qu'elle a pour écraser les salaires et faire qu'aujourd'hui, on peut être un travailleur, hein, bosser du matin au soir, passer sa vie au boulot et pas joindre les deux bouts. Voilà, ça ne changera rien là-dessus. Ça ne changera rien là-dessus. Ça changera rien non plus au fait que l'appareil d'État qui est gangréné, oui, par l'extrême droite, se comportera d'une façon raciste, violente, vis-à-vis de la fraction immigrée de la population. Ça ne changera rien. Donc tout ça, il faut le dire. Tout ça, il faut le dire. Voilà, moi, je me dire « Oh, ça sera plus facile de lutter ». Mais non, ça ne sera pas plus facile. Ce ne sera pas plus facile, y compris si, justement, cette campagne d'illusionniste marche, hein, ça veut dire qu'en fait, les gens ils vont dire, voilà, c'est bon. Hein, voilà, on attend qu'ils passent les bonnes mesures, qu'ils passent, qu'il y ait des bonnes réformes, etc. Et cet attentisme-là, on en crève de cet attentisme. Voilà, on passe notre vie à attendre. Alors les décisions d'un patron, hein, alors il va me prendre, il va pas me prendre, il va me changer de poste, il va m'accorder mon congé, la vie à attendre les décisions de ton propriétaire, hein, alors il va mettre les volets là et je vais arrêter de cuire, hein, avec 40 degrés à l'intérieur de l'appart, je passe ma vie à attendre les décisions de mon banquier, hein, et puis on passe notre vie à attendre les élections. Et puis le fait qu'il y aura un président de la République qui sera un peu plus soucieux des intérêts des travailleurs. Mais celui qui est plus soucieux des intérêts des travailleurs, il doit forcément entrer en conflit, en confrontation avec la classe capitaliste. Forcément. C'est ça que Mélenchon dit. C'est à ça qu'il prépare les travailleurs aujourd'hui. À la grande confrontation avec la classe capitaliste, avec Dassault, son ami Dassault, hein, dont il n'arrête pas de tresser des lauriers. C'est pas à ça qu'il prépare les travailleurs. Donc, moi, je pense que oui, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que tant qu'on laisse les rênes entre les mains de cette classe capitaliste, on aura droit à cette concurrence folle, à cette course à la compétitivité dans laquelle on est la chair à canon. On aura droit à ces guerres impérialistes, en fait.
Je sens que ma dernière question t'a agacé.
Non, pas du
Mais moi, je
tout.
disais pas,
Pas du tout.
il faut pas que l'Outre-ouvrière se présente, il faut pas dire du mal de Mélenchon, hein. Moi, je fais une série documentaire sur Mélenchon en ce moment, dans laquelle je critique en partie Mélenchon, et dans les commentaires, les gens, ils pètent un câble en disant justement, vous jouez le rôle des réactionnaires, etc. Moi, ça m'intéresse pas comme argument. Dans ce cas-là, on peut plus discuter de rien. Mais tu dis que vous êtes favorable au fait de tenir un discours de vérité. Mais moi j'ai l'impression que il y a aussi une autre vérité pour le coup lourde et tendancielle historique. C'est que quand tu disais tout à l'heure la démocratie elle s'arrête aux portes de l'entreprise. Ça c'est très vrai. Mais dans l'histoire des démocraties représentatives installées, donc des démocraties politiques au sens d'élections à peu près libres, de liberté publique. À ma connaissance, il y a jamais eu de révolution victorieuse. Et à ma connaissance, hein, dans une démocratie représentative vraiment installée, c'est jamais arrivé qu'il y ait une révolution victorieuse qui ne passe pas par le processus électoral. Et que ce qui s'en est rapproché le plus, par exemple, ça serait des cas comme le Chili sous Allende. Donc déjà, moi, ça me rend sceptique sur l'hypothèse révolutionnaire, mais j'avais une question pour toi sur des éléments plutôt récents en France. On va dire ce qui se rapprocherait peut-être le plus de quelque chose de un peu avec un climat un peu révolutionnaire. Et qu'est-ce que vous en aviez pensé et quel rôle vous aviez collectivement joué là-dedans? C'est le mouvement des Gilets jaunes, du coup qui avait pas eu lieu dans les espaces de travail, qui s'était organisé en dehors, qui s'était organisé sur les ronds-points. C'était organisé aussi avec un certain nombre de personnes qui étaient marginalisées par rapport au travail, avec des manifestations, on va dire, offensives, dans les grandes luttes, mais qui étaient aussi très centrées autour de la figure de Macron. Voilà, je voulais savoir un peu ce que vous aviez pensé de ce mouvement, et pour vous, quelles avaient été un peu ses forces et ses faiblesses?
Alors, je suis d'accord pour revenir sur les gilets jaunes, mais quand même,
Oui.
l'exemple du Chili et d'Allende, c'est au contraire une grande leçon que le réformisme et l'électoralisme, c'est un suicide pour les travailleurs. Bah, c'est la preuve de quoi? Allende a précisément s'est acharné à faire croire que l'État chilien pouvait être du côté des travailleuses et des travailleurs. Et qu'il allait s'arranger avec Pinochet. Pinochet qu'il avait lui-même nommé ministre. Lui-même. Il a vraiment, voilà, c'est un réformiste républicain. Peut-être que, je ne sais pas si Mélenchon est de ce type-là, c'est même pas sûr, mais qui a, oui, qui a condamné son peuple au suicide collectif, en fait. Voilà. Y compris alors même que ce bouillonnement ouvrier, cette organisation ouvrière qui se renforçait et qui a provoqué ce durcissement de l'appareil d'État et la réaction de la bourgeoisie de dire bah, de toute façon, il n'y a rien d'autre qu'une saignée, hein, qu'une répression historique, hein, pour mettre fin à tout ça, parce que notre pouvoir est menacé. Eh bien, au cours de ce bouillonnement, il y avait des travailleurs qui demandaient, par exemple, de s'armer, qui voulaient mettre en place des milices ouvrières, qui avaient senti que tout ça, ça allait se dénouer par les armes. Ce à quoi Allende a toujours opposé son veto. Hein? Non, 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 il fallait croire dans les institutions. Il fallait croire dans l'appareil d'État. Il fallait faire confiance à l'armée. On avait été élus, on avait la légitimité, etc. Tout ce baratin, en réalité, la bourgeoisie, hein, pour sauver son pouvoir, elle est prête à tout. Et ça, bon, bah, c'était une leçon quand même qu'en France, les travailleurs, ils ont aussi vécu avec la Commune de Paris, ça a été une saignée en 1871, parce que là, en effet, le monde bourgeois, il a eu la peur de sa vie. Ils ont fait une saignée. Donc, voilà, donc pour moi, l'exemple du Chili, c'est précisément l'idée que il ne faut pas croire qu'en jouant le jeu des élections, en faisant croire que l'État pourrait être républicain et que l'État pourrait être au service des travailleurs, que l'armée pourrait être au service des travailleurs, parce que ça aussi c'est le discours républicain de Mélenchon, que tout ça, tout sera bien, on va prendre les choses en main et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Non, voilà. Alors, effectivement, regardons ce qui s'est passé en Chili, tout à fait d'accord avec ça. Mais pour tirer des conclusions manifestement opposées. Alors, sur les gilets jaunes, nous n'avons pas fait la fine bouche. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où il y a des gens qui se lèvent, qui luttent, etc., c'est le début d'une possibilité. Et même d'une possibilité révolutionnaire. Nous, on n'oppose pas du tout les luttes quotidiennes à la révolution. On pense que au contraire, la moindre mise en action des travailleurs, elle porte en son germe les possibilités d'une mobilisation plus large, de masse et même politique pour changer la société. Donc nous, on n'a pas fait de la fine bouche. Par contre, on avait une politique. On avait la politique de s'adresser à tous les camarades qui étaient autour de nous dans les entreprises et qui, à la fin de la journée, quand ça sonnait, partaient vite pour aller rejoindre le rond-point, mettre le gilet jaune, dire « Attends, on passe 8 heures ensemble là, on peut peut-être, dans la journée, on peut peut-être prendre le temps de discuter, on peut même peut-être prendre le temps de voir si on peut organiser quelque chose sur la boîte, si on peut mettre aussi notre force là, parce que on va aller sur le rond-point, on va se retrouver à 20 ou à 30 ou à 50 ou peut-être plus les gros ronds-points, mais là, on est 500. Dans la boîte, on est 500, on est 1000, on est 3000, on est 10 000. Peut-être qu'on pourrait discuter là. On voit tous ce mouvement, ou en tout cas, si on voit pas ce mouvement d'un bon œil, eh ben discutons-en. Qu'est-ce qui va pas, etc. Donc nous, on était absolument pour que l'ensemble des travailleurs s'en emparent de ce mouvement et une politique et des revendications, parce qu'en effet, c'était un mouvement qui s'est développé sur la question du pouvoir d'achat et le prix de l'essence. Et d'ailleurs, dont les revendications ont fini par évoluer et par prendre de la consistance. Mais ça, c'est aussi le propre de tous les mouvements. Et c'est nous ce qui nous fait, ce qui nous conforte dans notre optimisme révolutionnaire. C'est qu'un mouvement, il part d'un point. Et puis, il y a des possibilités qui s'ouvrent et les gens, ont des perspectives nouvelles qui se développent et on est profondément convaincu de ça. Ce que le mouvement des Gilets jaunes aussi a démontré, c'est que même ceux qui s'étaient jamais battus, qui étaient restés loin des organisations ouvrières, qui étaient même très émiettés avec un prolétariat très fragmenté dans des petites structures, etc., pouvaient trouver la voie vers l'organisation collective et instinctivement, ils n'avaient même pas eu besoin d'organisation pour ça. Ils n'avaient même pas eu besoin de parti. Ils s'en méfiaient, et à juste titre. Et ils avaient envie. Et ça, c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est leur volonté de dire, on dirige ce mouvement. Ce mouvement, c'est le nôtre, c'est nous. On est ceux qui doivent le tenir, ce mouvement. On ne va pas se faire récupérer par, etc., etc. Ça, c'était, voilà. Mais ça ne doit pas empêcher les discussions en son sein. Les discussions politiques, c'est-à-dire on va où, quelles sont nos revendications, qui est-ce qu'on vise, on veut taper sur qui. Et en effet, moi je crois que une des faiblesses politiques du mouvement, c'était que jamais n'a été posée la question des salaires. Et que jamais on a regardé du côté du grand patronat, en disant ça suffit, il faut arrêter de vous gaver sur notre dos là, comme ça. Ce que fait Total aujourd'hui, les milliards et les milliards qu'il récupère, nous, on lui les lâche, c'est un vol. Mais cette conscience-là, il faut la répandre. Y compris dans le mouvement, il fallait la répandre, cette conscience-là. Il faut arrêter de croire que le grand patronat, c'est le petit patron qui est, enseveli sous les charges. Hein, ce discours-là, qui maintenant, c'est le discours majoritaire. Ah, ils ont des charges. Et nous, les travailleurs, on n'a pas des charges. Et nous, nos charges, quelqu'un s'y intéresse? Elles sont en train d'exploser, nos charges. On fait comment, nous, les travailleurs? Hein? Ben non, beaucoup raisonnaient, mais parce que aussi dans ce mouvement, il y avait aussi des petits artisans, des petits commerçants, qui justement raisonnaient comme des petits patrons, ben, normal. Hein, et ils faisaient raisonner les travailleurs autour d'eux aussi comme des petits patrons. Et c'est là qu'il y a un combat politique, et c'est là que les idées politiques sont importantes, et c'est là que l'existence de militants pour faire réfléchir à tout ça. Nous, on n'est pas contre les petits patrons. On défend les intérêts de la grande masse des travailleurs. Et on sait que cette grande masse des travailleurs, elle doit dire au grand patronat, arrêtez avec votre histoire de charges, là. Arrêtez. Tout ça, c'est des mensonges. Vous, vos charges, c'est que dalle. Hein? Les impôts que vous payez, c'est que dalle. Vous passez votre vie à nous tondre la laine sur le dos. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les grandes fortunes, elles s'accumulent et qu'elles prospèrent comme jamais. Et là, il faut qu'il y ait des militants. Il faut qu'il y ait des militants. Donc oui, on est allé discuter, on est allé sur certains ronds-points, y compris se confronter parfois avec des préjugés, parce qu'il y avait aussi sur certains ronds-points, il y a eu des discussions, parce que il y avait parfois des trucs racistes qui s'exprimaient dans certains ronds-points, dans certaines villes. Ben, on bagarrait, parce que c'est une bagarre tout ça. Donc voilà, nous effectivement, on avait envie de défendre une politique dans ce mouvement, et la politique, c'était la force des travailleurs, faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même dommage de pas actionner la force des travailleurs dans les entreprises, parce que, enfin, c'est pas que dommage, c'est que si on fait pas ça, en réalité, on touchera pas le cœur du réacteur, là où on peut leur faire mal, hein, c'est-à-dire à leurs profits, à leurs capitaux. Hein, il faut les capitalistes, de toute façon, faut les toucher à leur cœur. Leur cœur, c'est leur portefeuille, forcément. Et il faut pas en rester seulement à dire Macron, Macron, Macron. Hein, parce que dans cette histoire-là, Macron, il a joué un peu de paratonnerre, quelque part. Voilà, toute la foudre, elle s'abat sur Macron, et puis alors, les capitalistes, c'est bon, quoi. Hein, eux, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent continuer comme ils veulent. Et eux, entre parenthèses, ça les dérange pas trop, hein, que le samedi, t'ailles le samedi après-midi, t'ailles sur ton rond-point. Hein, du moment que t'es au boulot dimanche, lundi matin.
Ah ouais.
Du moment que tu retournes au boulot quand il faut, tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. Voilà, eux, ils ont même pas senti le vent du boulet au moment des Gilets jaunes. Parce que voilà, le boulet, il était dirigé uniquement vers Macron. Donc oui, politiquement, il y avait bien des choses à dire, il y avait encore tout un chemin à faire pour que ce mouvement... Il tire le plus efficacement possible. Voilà. Donc, oui, les Gilets jaunes, c'est intéressant aussi de discuter à la fois de la force et de ce que ça veut dire pour l'avenir et à la fois des faiblesses. Un mouvement, demain, s'il y a un mouvement qui surgit, il va surgir avec les idées telles que les travailleurs, ils les ont aujourd'hui, et avec un tas de préjugés, et avec un tas d'idées même bourgeoises, en fait. Parce qu'on est intoxiqués par les idées bourgeoises, par l'idéologie bourgeoise. Ça partira comme ça. Bah, il faudra des militants pour donner des idées sur comment le combat, il faut le déployer et quels sont nos véritables ennemis dans cette affaire-là.
Tu disais la classe capitaliste, le grand patronat, ils n'ont pas trop senti le poids du boulet. Moi, je me souviens d'un article que j'ai lu dans le Monde Diplo qui disait quand même qu'il y avait certains membres de cette petite classe très puissante qui avaient craint pour sa sécurité physique même et qui avaient appelé à ce moment-là les contacts qu'ils avaient à l'Élysée en disant genre lâche un peu pour calmer les gueux, quoi. Donc ils ont peut-être craint un peu, mais pas tant pour leur portefeuille que le fait que cette masse populaire, elle venait aussi dans les quartiers bourgeois, en région parisienne. Et ça aura peut-être fait peur par ailleurs, mais très rapidement, effectivement, ça s'est ritualisé et la peur a disparu. Moi, je lisais tout à l'heure, j'étais assis en tramway à côté d'une dame qui lisait un article du Figaro Magazine, qui était un truc de Franz-Olivier Gisbert et Bruno Le Maire, qui disait « C'est très difficile de gouverner un pays communiste ». Et il parlait de la France aujourd'hui. Hein. Et du coup, ça m'a amusé. En plus, je savais qu'on allait faire l'entretien ensemble. Et du coup, ma prochaine question, Ma prochaine question, c'est ce pays dit entre guillemets communiste. Évidemment, on n'est pas dans un pays communiste, même dans un pays où il y a encore de manière assez régulière des revendications larges, assez fortes. En 2016, il y a le mouvement contre la loi travail. Du coup, en 2018, il y avait les Gilets jaunes. En 2019, il y a le mouvement contre la première mouture de la réforme des retraites. En 2023, on se souvient du mouvement contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez un peu enfin, j'imagine que oui, mais des angles d'analyse sur le fait que ces grands mouvements, parce que tu parles des luttes au sein des entreprises, mais ces grands mouvements syndicaux interprofessionnels, ça commence à faire plusieurs décennies qu'ils échouent en France. Et est-ce que vous avez un peu des pistes de pourquoi et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Moi, je me pose vraiment la question dans mon coin à titre personnel. Est-ce qu'il faudrait essayer d'organiser des grèves reconductibles dans des secteurs stratégiques? Est-ce que les syndicats mettent pas suffisamment de côté en dehors des périodes de grève pour les caisses de grève? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment? On se souvient par exemple que lors du dernier grand mouvement social, donc le mouvement contre la réforme des retraites de 2023, les syndicats, au niveau discursif, avaient dit qu'ils allaient durcir le mouvement à partir du 7 mars, je crois. Et il y a eu quelques semaines de pause, puisqu'il y avait les vacances, etc. Et puis le 7 mars, on avait été un certain nombre de militants à essayer le matin d'aller sur des blocages, etc. Et ça n'avait pas trop pris. Est-ce que vous avez un peu un regard sur ça? Est-ce que c'est de la faute des syndicats qui disent quelque chose en fait, qui s'organisent pas suffisamment sur le terrain pour le faire? Ou est-ce qu'il y a des difficultés propres?
Bah, moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher aux confédérations syndicales, aux dirigeants, aux chefs syndicaux, hein, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les entreprises, nous sommes des militants syndicaux. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on milite pour réunir les travailleurs dans ce qui est un petit peu finalement la première école de l'action collective pour les travailleurs. Donc nous, bien sûr, on prend notre place dans ce combat et c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, voilà, là où il y a des équipes militantes hein, qui fonctionnent bien, bah, les travailleurs peuvent en témoigner. Hein, c'est quand même bien plus facile de riposter, de se défendre, etc. Donc pour nous aussi, c'est bien sûr que ça fait partie de notre activité militante. Hein. Maintenant, nous, ce qu'on pense, mais je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup discuté, c'est que justement faire du syndicalisme, c'est pas du tout suffisant. Il faut aussi défendre, il faut faire de la politique et il faut défendre l'idée que les travailleurs représentent une force politique. Une force politique avec une ligne politique pour changer la société. Donc c'est là que voilà, nous, Lutte ouvrière, on milite sur le terrain politique dans les entreprises et il est hors de question pour nous de se cantonner au syndicalisme. Voilà. Mais après, au niveau des confédérations syndicales, ce que là où c'est évident, c'est que c'est même pas tellement les appels qu'elles peuvent faire ou qu'elles peuvent pas faire, je crois, qui sont en cause en fait dans cette affaire. C'est ce qu'elles portent, c'est leur politique, c'est leur discours qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont plus du tout ils ne développent pas la conscience de classe. Ils ne développent pas du tout la conscience de classe. Y compris quand j'entends Sophie Binet, la CGT, le syndicat, qui je pense concentre encore à la base les travailleurs les plus combatifs, souvent, c'est la politique hein, qu'elle défend, c'est une politique, on va demander ça à Macron, on va demander ça à l'État, on va demander, il faut que Macron y fasse ci, il faut qu'il réindustrialise, il faut qu'il lutte contre la concurrence étrangère, etc., etc. Mais c'est pas un langage de... Alors, y compris quand on dit il faut lutter contre la concurrence étrangère, parce que les patrons français, c'est mieux? Parce qu'ils font mieux? Donc, en fait, ils propagent tout un discours avec plein d'illusions sur le gouvernement, sur justement ce que peut être en fait le patronat français, sur toute une politique qui est finalement étrangère aux intérêts des travailleurs. Voilà, quand on défend et quand on parle de protectionnisme matin, midi et soir, et ça c'est vrai pour les syndicats, et c'est vrai d'ailleurs pour les partis de gauche, et c'est vrai pour LFI, et ben là on quitte le terrain des intérêts des travailleurs. On le quitte complètement. Complètement. Parce que se protéger de quoi? C'est les autres, se protéger d'autres travailleurs, en fait. Se protéger des ouvriers chinois. Se protéger des ouvriers, éventuellement, qui auraient migré. C'est ça, le protectionnisme aussi. C'est la version nationaliste, sur le plan économique. Mais qu'est-ce qu'on met dans la conscience des travailleurs, là? L'inverse de ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a deux classes sociales et que ton patron, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, quelle que soit l'origine de ses capitaux d'ailleurs, parce qu'en fait ils sont tous mêlés hein, en réalité, eh bien voilà, lui son job c'est de t'exploiter. C'est de t'exploiter, c'est d'écraser tes salaires, c'est d'intensifier le travail, c'est d'augmenter la plus-value qu'il va extorquer de ton travail. Voilà, c'est son job, il y a rien d'autre à attendre de lui. Et toi, travailleur, travailleur exploité, t'es avec tes frères de classe. Parfois dans les autres pays, mais on vit la même situation et on est dans le même camp. On fait partie de la même classe. Et au lieu de se sentir en concurrence, il faut qu'on s'organise ensemble. Hein, parce que c'est le seul moyen, ils veulent nous mettre en concurrence. Mais nous, on doit s'organiser pour précisément ne pas se mettre en concurrence. Donc voilà, moi ce que j'ai à reprocher pour l'instant, surtout aux confédérations syndicales, c'est tout ce discours-là. Et c'est en effet, dès qu'il y a des luttes, de chercher à les cantonner, ça c'est sûr. Mais ces luttes et cette pression ouvrière, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu s'exprimer. Et en effet, je crois que même y compris au moment de la démobilisation sur le recul de l'âge de la retraite, il n'y a pas eu une véritable pression par en bas. Et que, y compris dans les différents appels qu'il y a eu aux grèves générales, les travailleurs ne s'y sont pas engouffrés. Ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Voilà, parce que il n'y avait pas cette niaque, cette volonté d'en découdre. Moi, je pense que cette mobilisation, elle a péché par le fait que, oui, les travailleurs, ils n'étaient pas déterminés à bagarrer. Et avec les sacrifices que ça signifie. Avec les sacrifices. Si tu montes sur un ring, face à un boxeur qui, c'est lui... Lui, il veut te les foutre les coups dans la tête, hein. Mais toi, tu dis, bon, je vais utiliser que ma droite. Je vais pas, ma gauche, là, j'ai une petite tendinite, ça me fait un peu mal, ça va être un peu dur, je vais y aller qu'avec la droite. Ça marche pas. Ça marche pas. Les travailleurs, ils ont voulu contester. Ils ont voulu dire, on n'est pas d'accord. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On veut pas crever au boulot. Ils ont voulu s'exprimer. Ils ont voulu dire leur opposition. Mais ils étaient pas dans l'esprit, je vais bagarrer et je vais les faire reculer. Ils n'étaient pas dans cet esprit-là. Je vais les faire reculer. Ça va peut-être me coûter 2000 balles, 3000 balles, 4000 balles, parce que je vais faire grève. Ça va peut-être même me coûter le fait que j'étais bien avec mon chef jusqu'à présent. Il m'a rangé plus tôt et là, ça va plus matcher. Ils n'étaient pas dans cet esprit-là. Quand est-ce que ça va revenir? J'en sais rien. Mais c'est cet esprit-là qu'il faut avoir pour vraiment mener des bagarres victorieuses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il faut y aller. Il faut avoir cette colère, il faut avoir cette envie d'en découdre. Et là, on sera capable non seulement de remporter des victoires, et puis de récupérer y compris le fric qu'on a dû lâcher au travers de la grève, parce que y compris combien il y a eu de grèves victorieuses, y compris payées par les patrons. Bah oui, parce que c'est ça aussi, quand tu remportes la bagarre, quand les patrons ils veulent reculer, ils sont prêts à beaucoup de choses, quand ils ont la trouille, quand ils ont la trouille de leur vie. Les patrons, ils sont prêts à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'exemple de mai-juin 1936, de la grande grève de mai-juin 1936, les congés payés, qui n'étaient pas dans le programme de Léon Blum, que les patrons n'avaient même pas imaginé lâcher un jour. Et là, face à la peur qu'ils ont eue de cette levée en masse, et de cette grève générale, et des occupations d'usines. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en 1936, les patrons se sont dit « Oh là là, mais... » Si les ouvriers se plaisent à dire « ici, c'est chez nous », on a chaud, là. Cette usine, c'est la mienne, c'est moi qui y passe l'essentiel du temps, c'est moi qui l'ai construite, c'est moi qui ai mis en place les machines, je laissais les faire fonctionner. Tout ça, c'est à moi. Cette idée-là qui pouvait émerger des occupations d'usines. Mais pour le patronat, c'était la peur de leur vie. La peur de leur vie. Donc ils ont sorti la lance à incendie et il fallait y aller. Et les congés payés ont joué ce rôle-là. Donc c'est une question de rapport de force, du poids que l'on met. C'est ça. Et si les dernières mobilisations, elles n'ont pas gagné, c'est aussi ça. C'est parce qu'on n'a pas mis tout notre poids de travailleurs dedans. Voilà. Mais moi, je tiens quand même aussi à dire qu'on peut dire tout ça, ça a été des échecs. Mais moi, c'est pas... Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est que à chaque fois que les travailleurs se lèvent, disent, même ne serait-ce que pour dire non, ne serait-ce que pour dire je suis pas d'accord, ça c'est dégueulasse, eh bien, c'est un drapeau qu'on lève. C'est... Voilà, il y a un camp qu'on fait entendre. Et ça, ça marque les esprits. Et ça pèse sur toute la société, en fait. Hein. Parce que si, y compris dans l'affaiblissement là du gouvernement, suite à la dissolution, etc., ils ont été obligés quand même de suspendre l'avancée de l'âge. Hein. C'est aussi parce que ils savaient que l'opinion, elle était contre, qu'elle était hostile. Ils savaient aussi que... Voilà. Donc tout ça, c'est on peut dire, on n'a pas réussi. Oui, OK, mais... C'est pas pour rien tout ça. Ces millions de manifestants, ces journées où on a manifesté, où on s'est vu, où on a senti le nombre, où on a senti notre qu'on vibrait aux mêmes choses, qu'on partageait les mêmes choses, c'est des moments importants. C'est des moments importants. On dit oui, mais c'est pas en allant manifester un jour que tu vas OK. Mais il faut qu'on se montre. Il faut qu'on se montre. Il faut qu'on dise ce qu'on a à dire. Voilà, ça commence par là. Et c'est quand même un drapeau qu'on lève aux yeux de tous les autres, qui sont peut-être encore plus pessimistes, apeurés, résignés, je ne sais pas comment dire. Voilà.
Je vais refaire un peu mon réformisme, mais tu parlais du Front populaire, et tu as bien raison de rappeler que le fait de mettre en place les congés payés, ce n'était pas dans le programme du Front populaire, et que c'est quelque chose qui était permis par les occupations d'usines. Mais dans le rapport de force, moi j'ai quand même l'impression que qui aux manettes de l'État, ça compte. C'est-à-dire qu'en 36, Blum avait fait une promesse qu'il a tenue. C'était de pas envoyer la police pour déloger les usines, et que la répression armée, elle fait quand même très mal, même aux travailleurs en lutte. Et du coup, ma question, j'ai placé derrière toi sur le piano un bouquin de Trotsky qui est une anthologie de textes qui s'appelle Contre le fascisme. Si l'extrême droite aujourd'hui, elle se différencie du fascisme historique à beaucoup d'égards, est-ce que vous considérez que l'extrême droite à la sauce Rassemblement National, Le Pen, Bardella, c'est un peu des gestionnaires du capitalisme comme les autres, et que finalement ils sont possiblement pas radicalement pires que des Macron, Retailleau, Darmanin? Ou est-ce que vous considérez l'extrême droite comme les pires gestionnaires capitalistes?
Alors, quand même, je ne te laisserai pas le dernier mot sur 36. Parce que Blum n'a pas envoyé l'armée, mais tous les travailleurs ont été envoyés à l'armée 2 ans plus tard, parce que c'était justement la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Parce que, y compris, il y avait... qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement, vis-à-vis de la Révolution espagnole? Le gouvernement Blum. Hein, bah, il a laissé se faire réprimer. Voilà. Et non, le fait même que, justement, ce gouvernement... Blum, il a fait ce que les patrons lui demandaient de faire. Les patrons ont dit, là maintenant, il faut les congés payés. D'ailleurs, c'est les patrons qui ont demandé à Blum cette fameuse réunion à Matignon. Vite, 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 il faut y aller. Hein, et puis, Blum, bah, de toute façon, donc il a fait ce que les patrons lui demandaient. Et puis, en plus, il avait même pas besoin de faire jouer l'armée. Mais il y avait la CGT, il y avait le PCF, pour faire retourner les travailleurs au boulot. Parce que c'est à cette époque-là, hein, parce que le PCF stalinien était dans la ligne qui venait d'Union soviétique, de dire maintenant, il faut arrêter de se confronter au gouvernement français, parce que nous, on veut que le gouvernement français soutienne éventuellement l'Union soviétique dans une guerre possible contre l'Allemagne. Donc, en gros, il fallait arrêter d'être révolutionnaire. Il fallait arrêter de contester le règne de la bourgeoisie en France, en Angleterre, dans toutes ces démocraties avec 50 guillemets. C'était la politique du stalinisme. Voilà, du parti communiste qui avait été, qui était passé sous la férule des staliniens. Et Thorez a eu cette politique-là de dire maintenant c'est bon, il faut arrêter une grève, il faut savoir arrêter une grève. On a eu tout ce qu'on pouvait dans la période. Les travailleurs, ils n'étaient pas au pouvoir. Hein, ils étaient loin du pouvoir en réalité. Mais il y avait une possibilité qu'ils aillent dans cette direction-là. Ils occupaient les usines, etc. Thorez a dit, c'est pas d'actualité. Là maintenant, on retourne au boulot. Il faut savoir arrêter une grève. Qui a joué les flics dans la classe ouvrière? Ben, c'est pas les flics. C'était malheureusement les dirigeants du Parti communiste et les dirigeants syndicalistes. Ils n'ont pas eu besoin de flics. Voilà. Et puis, encore une fois, le fait même que dans cette période d'ébullition à l'échelle européenne, avec la révolution espagnole à son côté, le fait que cette possibilité révolutionnaire en France continue, avance, là, il y aurait eu peut-être une chance, effectivement, de saper la montée, l'évolution fasciste et l'évolution vers la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait peut-être cette chance-là. Et cette chance-là, elle a été en effet complètement gâchée par cette politique contre-révolutionnaire du Parti communiste de l'époque et de la CGT, U comme de la CGT qui était encore sous domination de la SFIO. Voilà. Ça a été une possibilité gâchée. Et puis, bah, la marche à la guerre, elle a continué. Elle a continué. Et ce qui est quand même dingue, c'est de se dire que finalement, c'est l'Assemblée qui a été élue au moment du Front Populaire qui donne les pouvoirs à Pétain. Ça, c'est quand même un truc, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il y a des situations comme ça où, justement, on est face à une situation où la classe capitaliste, elle n'a pas d'autre choix, elle, que d'aller vers un régime autoritaire, vers un régime fasciste, etc., et d'aller vers la guerre. Et on était dans cette période-là. Le Front Populaire a été une possibilité d'enrayer ça. Mais une fois que ces possibilités étaient éteintes, on est allé, effectivement, vers, finalement, cette Seconde Guerre mondiale, qui, pour moi, en réalité, puisqu'on parle pas mal de guerre mondiale en ce moment, pour moi, cette Seconde Guerre mondiale, c'est la suite de la Première Guerre mondiale. Quelque part, c'est une seule et même guerre, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est une seule et première et même guerre parce que c'est exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on a des puissances capitalistes dynamiques comme l'Allemagne, tard venue par rapport à la Grande-Bretagne et la France, et qui n'avait donc pas d'empire colonial, qui étouffait littéralement dans ses frontières. Hein, et ça, c'est une histoire qui sans cesse continue aujourd'hui. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la guerre mondiale, elle revient en réalité. Hein. Donc, en fait, on avait les mêmes raisons qui avaient conduit à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un repartage des colonies, qui était valable et qui était porté par Hitler cette fois-ci. Un repartage des colonies, l'espace vital, etc. C'était ça qui se jouait. Et soit on était capable d'enrayer ça et d'impulser des gouvernements ouvriers qui auraient été les seuls finalement à être capables de se confronter à ce pouvoir fasciste et à l'affaiblir en réalité, soit finalement ce qui s'est passé. Donc la répression, les travailleurs ils l'ont pas eu en 36, mais ils l'ont eu après. Voilà. Ils l'ont eu parce que, justement, l'échec de cette possibilité, j'ai envie de dire révolutionnaire, de 36, ça nous a conduit à cette horreur qui a été cette nouvelle guerre mondiale. Voilà, donc moi, 36, voilà, je tire manifestement des leçons à l'opposé, hein, de
Je tiens pas que ce que j'ai
de
dit.
ce
Hein.
que de ce que de ce que tu, de celle que tu tires. Voilà. Et après, c'est l'autre question, c'était
C'était par
pardon.
rapport à l'extrême droite,
Ah oui.
parce que
Oui.
c'est aussi notre chaîne, c'est surtout écouté par des gens de gauche. Là, c'est un peu, ça fait partie des spectres de l'année à venir. Le fait que l'extrême droite peut arriver au pouvoir en France, c'est quand même pas anodin. Et du coup, je voulais savoir un peu avec votre analyse de classe, si vous considérez que l'extrême droite au pouvoir est un gestionnaire plus brutal que les autres ou pas.
D'abord, des dirigeants d'extrême droite à l'œuvre, il y en a quand même. Il y a Mélanie, il y a Trump, c'est intéressant de regarder ce qu'ils font. Évidemment, ils font tourner et ils font la part belle aux intérêts des capitalistes. Bon, ben ça, c'est OK. Trump est lui-même, d'ailleurs, un capitaliste. Il n'a pas l'air de s'oublier d'ailleurs dans la politique impérialiste américaine. Hein. Apparemment, il accumule les millions et les millions là en ce moment. Bon, et oui, bah, Meloni, elle gouverne bien sûr aussi pour la bourgeoisie italienne. Et il n'y a aucun doute sur le fait que Le Pen et Bardella le feront demain. D'ailleurs, aujourd'hui, ouvertement, hein, ils expliquent que ils vont défendre les intérêts patronaux. Hein. Alors, c'est pas seulement les rencontrer, mais ils reprennent finalement tous les poncifs de la bourgeoisie. On paye trop de charges, c'est un enfer fiscal. Moi, je me souviens de Bardella, hein, qui avait donné raison à Bernard Arnault quand il était rentré des États-Unis, parce que Bernard Arnault était allé applaudir Trump quand il avait été investi. Et Bernard Arnault était rentré en disant, la mine complètement consternée, et là, je reviens dans un enfer fiscal. Hein? Un enfer fiscal. Bernard Arnault, je sais pas, il a 160, 70 milliards de fortune, hein, et le pauvre, il vit un enfer. Bon, bref. Et ben là-dessus, Bardella avait dit, oui, il a raison, Bernard Arnault, c'est un enfer fiscal. Enfin bon. Là, dernièrement, il a fait une interview, c'est même hier soir, où il a expliqué que la France avait trop de dépenses sociales. Hein? Donc quoi? Ça veut dire quoi? Il y a trop d'argent pour les retraites, il y a trop d'argent pour la sécurité sociale, trop d'argent pour soigner, pour l'école. Hein? Donc évident, c'est évident que c'est un parti qui roule pour la bourgeoisie. C'est des défenseurs de toute façon du système capitaliste. Ok, voilà ce qu'ils ont par rapport aux autres gestionnaires loyaux de la bourgeoisie qu'on trouve y compris à gauche. Hein, Blum lui-même, il avait utilisé cette formule. Hein, il avait dit je suis un gestionnaire loyal de la bourgeoisie. Donc, qu'est-ce qui distingue cette extrême droite des autres? Est-ce que c'est même dans leur action contre les travailleurs immigrés? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que si on prend Trump par exemple, Trump, nos camarades américains nous disaient parce qu'on a fait notre fête à Lutte ouvrière la semaine dernière, week-end dernier, et ils nous disaient que est-ce que Trump expulse plus d'immigrés que Biden et que Obama? C'est pas sûr en fait en termes de chiffres. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il met en scène. Il met en scène et il a toute une politique d'affichage pour terroriser les travailleurs immigrés et les travailleurs tout court en fait. Ça, c'est une façon de leur dire bah, vous allez raser les murs, vous allez vous faire tout petit, vous allez pas revendiquer, vous allez vous faire tout petit. Vous vous faites exploiter, vous êtes là pour ça et voilà, c'est ça votre vie. C'est une pression. Une pression forte qui s'exerce contre eux et qui s'exerce en fait contre tous les travailleurs. Une façon donc autoritaire, en effet, de diriger. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui est tout à fait possible avec Le Pen et Bardella, qui jouent là-dessus, effectivement, et cette façon-là, autoritaire, et cet affichage, voilà, qui va forcément peser. Forcément peser et forcément être pire pour ceux qui, pour tous en fait, pour tous. pour tous, parce que pour tous ceux qui veulent contester, pour tous ceux qui veulent... OK. Mais en même temps, j'ai quand même envie de dire que cette évolution, elle est déjà en cours, hein. Elle est déjà en cours. L'autoritarisme, bon, on voit quand même toute la répression du gouvernement, de la justice vis-à-vis de ceux qui se sont solidarisés avec les Palestiniens. Le nombre quand même de militants qui sont envoyés devant les tribunaux pour apologie de terrorisme, enfin, c'est dingue. Hein, c'est dingue. Et tout ça, c'est une façon de faire taire. Voilà. Il ne faut pas dénoncer la politique criminelle de l'État israélien. Voilà, c'est ça le message. Et tous ceux qui iront de ce côté-là, tous ceux qui diront, et nous, on n'arrêtera pas de le dire, hein, que si on doit parler de politique terroriste, c'est d'abord pour l'État israélien, parce que lui, c'est du terrorisme à l'échelle d'un État. C'est un terrorisme, voilà, massif, avec les moyens, avec les bombes, avec des moyens d'envergure. Et ils terrorisent tout un peuple et toute une région. Ils font quoi au sud du Liban aujourd'hui? Donc, cet autoritarisme, il est déjà en cours. Il est déjà en cours. Oui, sans doute qu'il peut aller encore plus loin. Il peut aller encore plus loin. Mais en termes, par exemple, même de mesures, regardons ce qu'a fait Retailleau, ce qu'a fait Darmanin. Hein, à une énième loi immigration, mais qui pourrit la vie de centaines, de milliers de travailleurs immigrés qui peuvent plus se déplacer librement. Aujourd'hui, il y a le gouvernement fabrique des sans-papiers par dizaines de milliers parce que des femmes et des hommes qui avaient des papiers en règle n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour parce que c'est impossible de prendre rendez-vous à la préfecture. Parce que, voilà, et donc, en fait, c'est des dossiers qui traînent et ils se retrouvent sans papier. On a des cas. Moi, je connais des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça, qui ont perdu leur logement. Donc, c'est dingue. Enfin, c'est une attaque extrêmement dure qui se mène déjà contre une fraction des travailleurs, déjà aujourd'hui. Alors, oui, avec Le Pen et Bardella, on peut dire que ça sera un nouveau cran. Ça, oui, il y a cet aspect, il y a cet aspect-là. Voilà, mais encore une fois, nous, ce qu'on pense, même par rapport à ça, c'est que on pourra se protéger de tout ça. Et aujourd'hui déjà, mais qu'en comptant sur la solidarité ouvrière, la conscience de classe, il faut avoir en tête que quand un travailleur voit ses droits bafoués, c'est les droits de tous les travailleurs qui reculent. C'est un affaiblissement pour nous tous. Et il faut qu'on s'élève contre cela. Mais ma conviction, c'est que ça se passera pas au travers de, comment dire, des joutes politiciennes à l'Assemblée nationale ou dans une élection. C'est dans la vie de tous les jours. On doit former un bloc. On doit faire bloc. Et on doit réagir. Moi, j'étais épatée, j'étais vraiment... ça m'a fait chaud au cœur de voir les réactions de la population à Minneapolis contre l'ICE, contre la police de l'immigration de Trump. Hein. Ils l'ont payé cher, deux morts. Mais ils sont retournés à la bagarre. Ils ont manifesté après ça. Ça les a pas arrêtés, ça les a pas stoppés. Ça leur a donné encore plus de colère. Et ils ont continué à organiser leur réseau de solidarité, leur dire « vous n'êtes pas tout seul, on va venir vous ravitailler, on va vous dire si la route elle est libre, si vous pouvez vous déplacer, on va... » Et c'est comme ça qu'ils ont réussi finalement à faire reculer Trump, parce que finalement il a dû remballer hein, ces Robocop qui faisaient tant peur. Hein. Donc... moi, c'est voilà, mes convictions, c'est que face à cette extrême droite et à ces idées, parce que qu'elle soit au pouvoir, pour l'instant, elle n'est pas au pouvoir, mais dans l'appareil d'État, dans la police, dans la justice, ils sont forts, ils sont puissants, et ils font déjà du mal, beaucoup de mal. Hein, quand on voit ouais les violences policières. Hein, c'est quoi, une cinquantaine de morts par an, hein, parce que voilà, t'as un contrôle, hein, et puis t'as pas parce que t'es noir, parce que t'es basané, parce que t'es musulman, etc. Bah tu finis avec une clé d'étranglement, asphyxié, etc. Voilà, c'est pas possible. Mais ça existe encore, enfin, ça existe déjà là. Déjà là. Et y compris avec Mélenchon au pouvoir, ça existera là. Hein. Ça existera parce qu'ils partiront pas. Hein. Ils partiront pas. Ils seront là. Et donc voilà, moi je. Oui, je pense que. Ça peut être un gouvernement bourgeois, pro-capitaliste, encore plus dur pour les travailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, on le combattra au travers de nos luttes collectives. On le combattra avec notre solidarité et notre conscience de classe. Notre conscience de classe. Donc, quand on est militant, quand on veut changer la société, quand on veut aller vers le renversement du capitalisme, eh ben, notre raison d'être, ça doit être celle-là. Développer cette conscience de classe dans le monde du travail. La conscience de classe, c'est pas les élections. Voilà. Et je pense que si elle a tant reculé hein, ces dernières décennies, c'est que justement, les partis qui véhiculaient, même de façon déformée, même de façon le parti communiste, hein, même stalinisé, il défendait une certaine conscience de classe, hein, il la portait au travers de ses militants, qui étaient des gens combatifs, qui avaient la haine de l'exploitation, la haine du capitalisme. Eh bien, à cette, comment dire, quelque part, il véhiculait, il continuait de faire vivre une conscience de classe. Et ça, ça a été démoli d'élection en élection, où le problème, c'était plus la lutte, c'était de bien voter. Voilà. Et à la place de la lutte de classe, c'était la lutte pour les places. Voilà, et la vie politique s'est résumée à ça. Et du coup, la force que les travailleurs pouvaient ressentir avec cette conviction d'appartenir à une grande classe hein, de travailleurs, y compris à l'échelle internationale, cette idée-là, cette conscience, elle a reculé. Donc oui, moi je dis attention, attention, attention aux illusions électoralistes, attention à ne pas faire croire que voilà, tout notre sort est dépend de cette élection de 2027. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est regarder du mauvais côté. Notre sort dépend de notre capacité à nous percevoir de nouveau comme une force politique. Quand on appartient au monde du travail, on fait tout tourner. On fait tout fonctionner. On a des idées sur comment on doit faire les choses. On a la capacité même d'arrêter des guerres, comme ça a été le cas en 1917. On est une force politique pour changer la société. Cette force-là, il faut la rendre consciente et il faut la faire exister partout où l'on peut. Et ça, c'est le devoir de communistes révolutionnaires.
Pour finir l'entretien sur une note un peu plus légère. Ça serait quoi votre... Je sais pas pourquoi tout d'un coup je passe au vouvoiement, c'est la fatigue. Ça serait quoi ton meilleur souvenir de lutte? D'ailleurs, je sais pas quel âge t'as, et je sais pas depuis combien de temps tu milites, mais est-ce qu'il y a comme ça quelques souvenirs de lutte précise qui
se
démarquent un peu?
Oui, c'est vrai. Bon, moi j'ai 56 ans. Et je milite depuis que j'ai 18 ans. J'ai découvert les idées marxistes avec un militant de la jeunesse communiste dans mon lycée, qui militait et il m'avait fait lire le manifeste du Parti communiste. Et ça m'avait vraiment... Mais ça m'avait ouvert un horizon. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, cette première lecture. Mais le Parti communiste ne m'attirait pas. Il ne m'attirait pas parce que c'était un parti qui justement c'était tout ça c'était en 88 hein, donc c'est un parti qui avait été au pouvoir avec Mitterrand qui pour moi n'était plus un parti révolutionnaire. Il avait géré le système capitaliste et de la pire façon qui soit, c'est-à-dire en décevant bien sûr les travailleurs en leur demandant battez-vous pas trop, attendez, vous allez voir, on va faire, etc. Donc pour moi c'était réglé, ça pouvait pas être le Parti communiste. Donc après j'ai rencontré des militants de lutte ouvrière et j'ai adhéré et je suis devenue une militante de lutte ouvrière. Donc oui, je milite depuis pas mal de temps et bon, je garde en tête cette grande bagarre en 1995 qui a été vraiment une, et cette fois-ci qui a, donc c'était sur la Sécu notamment, hein, une attaque, c'était Fillon, Il a dû reculer face à des manifestations et à des grèves, 3 semaines de grève. Moi, je me souviens, je travaillais dans la région parisienne, j'avais été mutée dans la région parisienne et je militais sur Lyon. Donc, je faisais des navettes en train. Et donc, il y avait eu des grèves à la SNCF. Alors, le TGV roulait. Il roulait, il n'y avait pas de conducteur. Donc, je me souviens, j'avais pu enfin voyager sans payer mon billet. J'étais très heureuse de tout ça. Mais ils avaient préservé le TGV. Mais par contre, à la SNCF, il n'y avait pas un train qui roulait. C'était une grève, etc. Et je me souviens, parce que j'avais fait un meeting à Annecy, et je rentrais en voiture avec des camarades. On avait mis la radio. Et ils racontaient l'extension de la grève. Et un journaliste avait eu cette image, mais qui m'avait marqué, qui m'avait profondément réjoui. Il avait expliqué que toutes ces grèves qui se développaient donnaient l'impression d'un sac de billes qui avait été lâché. Et que tout ça se répandait, etc. Et je me souviens de ce moment-là, qui avait été un immense moment de joie. Je me dis, il y avait une possibilité. Et puis des manifestations... massive. Donc on militait. Moi, à l'époque, je vendais le journal Utoyère et on venait me l'acheter. Mes 20 journaux disparaissaient en quelques minutes. Il y avait un appétit pour les idées, pour refaire le monde, il y avait tout ça. En réalité, c'était une lutte qui avait été elle aussi bien encadrée par les organisations syndicales. Hein, qui avait bien, mais encore une fois, il y avait un élan que j'avais ressenti et ça reste pour moi un moment très très fort. 95. Suite à ça, il y avait eu d'ailleurs la présidentielle, il y avait eu un tas d'élections où y compris Arlette Laguiller avait fait des scores très très forts, mais c'était lié justement au fait que moi dans la campagne présidentielle, je vais dire ma conviction, je vais dire que la force de la classe ouvrière, sa capacité à changer les choses, je vais le dire. Mais je sais bien que aujourd'hui dans la vie, il y a peu d'éléments qui permettent aux gens de le toucher du doigt, de le mesurer. En 95, il y en avait. Et bien sûr que les idées et les idéaux que l'on portait, ça faisait écho à ce que les gens vivaient. Alors aujourd'hui, ça nous manque. Mais moi, je suis convaincu que il va y avoir des luttes, qu'il va y avoir des révoltes, que y compris dans ces périodes de guerre et de barbarie, parce que quand même tous les jours on se dit mais on va descendre jusqu'où là? Jusqu'où on va descendre? Le génocide palestinien? Et puis là encore aujourd'hui aujourd'hui bon, Gaza c'est un tout petit camp à ciel ouvert, un camp de concentration à ciel ouvert. Et là encore on les affame. Et là, on les affame. Et il se passe quoi en République démocratique du Congo? Et il se passe quoi? Mais on va jusqu'où? On va descendre jusqu'où? Donc on se dit, c'est pas possible. C'est ça l'humanité. On est capable de ça. Donc je comprends les gens qui se disent, mais voilà, tout ça. Ben, moi, je suis convaincue. Je suis convaincue que dans ces périodes les plus sombres, il y a aussi de la révolte qui s'emmagasine. Il y a aussi de l'énergie. Il y a aussi de la combativité. Et que tout ça, ça va finir par exploser. Je sais pas par quel bout, j'en sais rien. Mais ça va finir par exploser. Et ces explosions-là, il faut qu'il y ait une politique. Une politique pour renverser la société capitaliste. Parce que c'est par ce bout-là qu'il faut le prendre. L'impérialisme vient d'où? Il vient du capitalisme. Il vient de la domination de la classe bourgeoise. Il vient du fait qu'il y a cette propriété privée des capitaux et qu'il y a ce verrou-là de la classe capitaliste qui domine le monde et qui fait que elle demande à ces États, qui sont leurs bras armés, d'aller imposer leurs lois aux quatre coins du monde pour qu'ils puissent faire leur business. Donc voilà, je pense que il faut préparer les révoltes et même les révolutions de demain. Et il faut avoir une politique pour cela. Et donc oui, bien sûr, il y a un combat politique à mener, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de lutte ouvrière, beaucoup de lutte des travailleurs. Il y a un combat politique à mener. Ce combat pour la conscience de classe, c'est notre combat. Il est incarné dans un parti. Hein, ce parti, il faut le construire, il faut le développer, y compris dans cette période.
Merci Nathalie Arthaud et bonne campagne.
Merci de m'avoir laissé le temps de m'exprimer, de m'étaler, de m'étendre sur toutes nos idées et nos convictions. Merci.